Vous écoutez France Culture, il est 12h30, l'heure du journal présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Aux États-Unis, une enquête ouverte suite à ces violences entre partisans de l'extrême droite et des contre-manifestants. Violences qui ont fait un mort et une vingtaine de blessés hier à Charlottesville. Une femme notamment a été tuée par une voiture qui a foncé dans la foule. Qu'est-ce que cette tragédie nous dit sur un certain climat qui règne aux États-Unis en ce moment? Analyse de Philippe Golub, professeur de relations internationales, dans cette édition. Le Parlement iranien vote l'augmentation des crédits pour le programme des missiles balistiques. Que cherche véritablement Téhéran à travers cette décision? Nous entendrons notre correspondant Siavosh Ghazi. En Corse, une manifestation est annoncée aujourd'hui pour demander la démolition de deux villas qui appartiennent à Pierre Ferracci, proche d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'une affaire judiciaire que Hélène Constanti, journaliste indépendante, nous expliquera plus en détail. Au départ, c'était donc un rassemblement de la droite radicale américaine organisé à Charlottesville, réunissant notamment néo-nazis et membres du Ku Klux Klan. Puis une foule de contre-manifestants est également venue sur place. Parmi ces antifascistes, une femme de 32 ans a donc été tuée lorsqu'une voiture a foncé dans la foule volontairement, selon des témoins. Le conducteur suspect, un jeune homme de l'Ohio de 20 ans, a été incarcéré pour meurtre. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait des sympathies d'extrême droite. Le président Donald Trump a condamné ces violences sans prendre parti pour l'un des deux camps. Faut-il s'étonner de la violence et de l'ampleur de ce rassemblement d'hier? Non, selon Philippe Golub, il est professeur de relations internationales, notamment à l'Université américaine de Paris. Pour lui, Donald Trump a déculpabilisé l'extrême droite aux États-Unis. On l'écoute.
Trump ne règne pas sur le parti républicain dit traditionnel, qui est lui-même très à droite. Il doit son élection justement aux éléments les plus droitiers, les plus extrêmes, non seulement du parti républicain, mais aussi de ces mouvements-là. Steve Bannon, un financier qui s'appelle Mercer, qui a été derrière sa campagne. Tous ces éléments-là sont essentiels pour lui parce que c'est le cœur de son pouvoir. Tout son objectif politique, c'est la production du dissensus, la production du clivage, la production de la violence politique. Donc pour lui, ça ne le dessert pas fondamentalement en ce sens qu'il devient de fait le nouveau dirigeant historique des extrêmes droites réunifiés aux États-Unis. On est là dans une tradition familiale. La famille de Trump est une famille d'extrême droite. Alors je voudrais ajouter une chose pour contrebalancer ces images. C'est que l'extrême droite américaine et l'idée de la suprématie blanche est en déclin historique du fait des changements démographiques aux États-Unis. D'ailleurs, on ne peut plus parler aux États-Unis de monde anglo-saxon parce que les Saxons sont une toute petite minorité aujourd'hui. On pourrait parler éventuellement d'une tradition anglo-protestante, mais même cette tradition-là est en déclin. Donc, on peut interpréter la résurgence aujourd'hui de l'extrême droite suprémaciste blanche comme étant une réaction à leur déclin inévitable historique aux États-Unis.
Propos recueillis par Sarah Maquet. On apprend également que la police de Virginie et le FBI ont ouvert une enquête donc sur ces violences d'hier. Dans le Pacifique, quelle est l'ambiance actuellement sur l'île de Guam? On sait qu'elle est directement menacée depuis quelques jours par la Corée du Nord qui prévoit d'envoyer 4 missiles à proximité. Sur place, la population est à plus de 80% catholique. Angélique Forget a assisté pour nous à la messe de ce matin.
Sur le parvis de l'église Santa Maria à Agagna, la capitale de l'île, Franck, 53 ans, avance d'un pas décidé. Il vient ici tous les dimanches, mais pour lui, la messe d'aujourd'hui revêt une importance particulière.
Je vais prier pour que tout se résolve, que personne ne soit blessé et que personne n'ait à partir en guerre. Je pense que la paix, c'est très important en ce moment.
Pour son homélie, le père Paul Goffigan a tenu à adresser à ses fidèles un message de circonstance.
Si nous devons prier pour la paix se trouve à l'intérieur. On ne trouve pas la paix à l'extérieur, tout commence à l'intérieur. N'ayez pas peur.
Madeleine Connelly, 70 ans, prie pour les habitants de Guam, mais aussi pour que Donald Trump et Kim Jong-un mettent fin à leur escalade verbale.
Je pense que nous avons affaire à deux personnes qui ont beaucoup d'ego. Et trop d'ego, cela peut tout emporter sur son passage. Malheureusement, ils ne pensent pas assez à la situation globale.
Ici, les fidèles tentent aussi de se rassurer en se rappelant qu'en 2013 déjà, Pyongyang avait annoncé vouloir attaquer l'île et que ses paroles ne s'étaient finalement pas transformées en actes.
Reportage donc sur l'île de Guam qui compte quelques 160 000 habitants. L'Iran développe son programme balistique. Le Parlement a voté aujourd'hui quelques 520 millions de dollars en ce sens pour le régime. Il s'agit de faire face aux actions, je cite, « terroristes et aventuristes » des États-Unis dans la région. Que prévoit précisément cette loi votée par le Parlement iranien? Comment notamment sont répartis les crédits sur place? Notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
La loi prévoit l'attribution de 220 millions d'euros supplémentaires pour renforcer le programme balistique de Téhéran et autant pour soutenir la force rose des gardiens de la révolution qui interviennent notamment en Syrie et en Irak pour aider les gouvernements de ces deux pays en lutte contre les djihadistes. Washington a adopté à la mi-juillet de nouvelles sanctions juridiques et financières contre Téhéran après le lancement d'une fusée destinée à placer des satellites dans l'atmosphère. Ensuite, le Congrès américain a voté fin juillet des sanctions contre Téhéran visant le programme balistique du pays, mais aussi son soutien à des groupes comme le Hezbollah libanais, qualifié de terroriste par Washington. L'Iran a dénoncé ces sanctions en affirmant qu'elles violaient l'accord nucléaire conclu en juillet 2015 avec les grandes puissances, notamment les États-Unis. Les Américains doivent savoir qu'il ne s'agit là que de notre première réaction, a prévenu le président du Parlement, Ali Larijani. Donald Trump n'a cessé de critiquer l'accord nucléaire. Il y a encore quelques jours, il a affirmé que l'Iran avait violé l'esprit de cet accord. Il s'agit donc d'un pas de plus dans le durcissement des relations entre les deux pays.
En Algérie, c'est une information qui a été beaucoup relayée par les médias. Cette semaine, il devait y avoir une baignade républicaine réunissant sur une plage quelques 3000 femmes en bikini voulant affirmer leur indépendance. Alors, il s'agissait d'une fausse information, une telle opération n'a jamais eu lieu. La vérité, c'est qu'il y a bien un groupe de quelques jeunes femmes de la ville d'Annaba qui se réunissent régulièrement pour aller à la plage en bikini ensemble pour se protéger du harcèlement. Elles sont réunies sur un groupe Facebook qui s'appelle « Quelle plage à Annaba ?». Notre correspondante en Algérie, Leïla Berato, les a rencontrées sur la plage de Seraïdi.
Ce matin-là, très tôt, pas l'ombre d'une manifestation. En réalité, chaque femme du groupe vient de son côté, accompagnée de ses amis ou de sa famille, comme Kenza, 30 ans, en maillot de bain noir.
Bon, écoute, c'est très simple, on est deux femmes et entourées de 15 mecs. Ouais, si on fait le tour à 360 degrés, il n'y a que des mecs, pratiquement que des mecs. On est toutes les deux en maillot de bain et je vois deux nanas là-bas, loin. Voilà, c'est tout. Quand tu te mets en maillot de bain, t'as tous les mecs qui te fixent comme ça du regard. Et c'est plus que mal à l'aise, c'est vraiment agressé.
Se sentir à l'aise, voilà en réalité l'objectif des jeunes femmes de ce groupe. Un peu plus loin sur la plage, Jihan, Leïla et Naïma sont assises sur des chaises en plastique blanc. L'une a mis un short par-dessus son maillot de bain, l'autre est en burkini et la troisième porte une longue djellaba. Elles sont assez sceptiques sur le rôle du groupe Facebook, mais elles sont d'accord sur une chose. Le harcèlement est quotidien, peu importe la tenue, peu importe l'âge.
Ils t'emmerdent de partout ici. J'étais avec ma mère, ils te disent des choses pas bien, même si tu portes un voile, même si tu es couverte.
Il fait des gestes, avec sa bouche, ses mains.
Il la déshabille avec ses yeux.
Ce jour-là, la plupart des femmes affirment qu'elles quitteront la plage dans l'après-midi dès que les groupes de jeunes deviendront plus nombreux.
Leïla Berato. Se dirige-t-on vers un début d'apaisement au Kenya? En tout cas, la nuit a été calme dans les bidonvilles de Nairobi et l'ouest du pays, qui sont les bastions de l'opposition. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lance un appel à Raila Odinga, le candidat battu, qui ne reconnaît toujours pas officiellement sa défaite. Il lui demande d'envoyer un message clair à ses supporters afin qu'ils s'abstiennent de recourir à la violence. Raila Odinga pourrait s'exprimer cet après-midi à 14h. En Grande-Bretagne, des positions communes se dessinent au sein du gouvernement au sujet du Brexit. Ce qui se dégage, c'est donc que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, mais aussi le marché unique et l'union douanière dans 20 mois, en mars 2019. Plusieurs ministres étaient divisés sur cette question, mais ils affichent donc aujourd'hui un consensus dans une interview donnée au Sunday Telegraph. Nouvelle manifestation aujourd'hui en Corse du Sud pour réclamer la démolition de deux villas appartenant à l'homme d'affaires Pierre Ferracci, proche d'Emmanuel Macron. Ce sont des villas situées dans la région de Bonifacio qui ne sont pas conformes au permis de construire accordé. L'homme d'affaires a été condamné en justice à une amende d'1 million d'euros, mais la justice n'a pas ordonné la démolition des maisons. Écoutons à ce sujet Hélène Constanti, journaliste, auteure d'un ouvrage qui s'appelle « Corse, l'étreinte mafieuse » paru en 2012 aux éditions Fayard.
Le site sur lequel
ces maisons ont été construites, et un des sites les plus protégés, absolument magnifiques dans la région de Bonifacio. Et ce qui choque énormément, si vous voulez, c'est le fait que il suffise d'être très riche, d'avoir des relations, et on peut s'affranchir de toutes les règles d'urbanisme, et donc des constructions illégales. Il suffit de payer 1 million d'euros d'amende, et le tour est joué. Et donc c'est ce qui choque énormément. Un proverbe corse dit « qui a des amis et de l'argent, tord le nez à la justice ». Et on est vraiment en plein dedans, en plein avec cette affaire, elle est extrêmement symbolique.
Propos recueillis par Jules Lavie. Le temps de cet après-midi est globalement en amélioration. Quelques petites averses encore du côté de la Haute-Marne, mais sinon le soleil est présent partout. Il fera entre 19 et 24 degrés sur la moitié nord, 28 à 33 degrés dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Martin Descloseaux. Il a été réalisé à la technique par Victoria Asper.